La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Aujourd'hui, Appel sur l'actualité est à Bamako. Juan Gomez.
De retour dans la capitale malienne, nous poursuivons notre débat sur l'insécurité alimentaire, l'Afrique face aux défis agricoles et ce à l'occasion du forum de Bamako consacré à l'immigration. Nous le disions en première partie, investir dans ce secteur permet à la fois de créer des emplois, de réduire la faim et la pauvreté, de stimuler la croissance économique et donc de lutter contre l'immigration. Alors pourquoi l'Afrique ne parvient-elle pas à développer son agriculture comme l'ont fait par exemple de nombreux pays d'Asie. Vous nous livrez vos réflexions, vos commentaires et on en parle ce matin avec trois invités. Kabiné Camara, ancien Premier ministre de Guinée, Moussa Alassane Diallo, président du conseil d'administration de la Banque Nationale de Développement Agricole du Mali et Cheban Koulibaly, spécialiste des questions de développement du monde rural et des problèmes fonciers. Je vous propose de repasser tout de suite au standard. Il y a beaucoup d'auditeurs, c'est un sujet qui les interpelle et pour cause, faut-il le rappeler, l'agriculture est la colonne vertébrale de l'économie dans de nombreux pays africains. Donc c'est un sujet qui vous concerne. Bonjour Abdoul.
Bonjour Juan, bonjour à tous et bonjour à vos invités sur le plateau.
Merci infiniment Abdoul. Vous êtes en Côte d'Ivoire et vous souhaitiez témoigner ce matin.
Effectivement Juan, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il n'existe pas réellement de phénomène d'immigration lié à la famine ou à un déficit alimentaire quelconque, hein, et car sous l'ère du père fondateur et bâtisseur Félix Houphouët-Boigné, à travers une bonne politique agricole qui nous a hissé au plan, au rang mondial que tout le monde sait en termes de culture, de rente et d'exportation, nous avions à travers cette même politique agricole failli atteindre très vite l'autosuffisance alimentaire et pour ce qui est des cultures vivrières ou alimentaires. Cela dit Juan, je pense que le manque de vision dans la continuité de cette politique agricole ivoirienne et initiée par Félix Houphouët-Boigné n'a pas permis d'ériger la Côte d'Ivoire en champion dans la transformation de nos matières premières.
Ah oui.
En produits finis.
Ouais, ça, et vous pensez notamment au cacao. Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, et je crois que allez, entre 30 et 35% du cacao est transformé sur place. La transformation, monsieur le Premier ministre, Kabiné Camara, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Effectivement, c'est un grand débat, mais c'est surtout un grand combat, puisque transformer suppose d'abord que vous maîtrisez le circuit de commercialisation. Et la chaîne de production, de transformation du cacao jusqu'au chocolat est assez complexe. Mmh. Et ce que la Côte d'Ivoire a commencé depuis un certain temps, c'est d'intéresser quelques personnes, quelques investisseurs qui sont déjà dans la vente de chocolat pour délocaliser leurs entreprises installées en Côte d'Ivoire. Et je crois que ça va faire tâche d'huile progressivement. C'est un travail de longue haleine, avec la volonté, avec la fiscalisation, avec un certain nombre d'incitations. Mmh. Je crois que le gouvernement ivoirien va y arriver.
On parle de la Côte d'Ivoire, mais on peut généraliser à l'ensemble du continent. Les importations alimentaires sont plus importantes que les exportations. Transformer, c'est créer de la valeur ajoutée, Moussa Alassane Diallo.
Oui, tout à fait. La transformation des produits agricoles est une donnée permanente. Et je pense que c'est le passage obligé pour assurer la création de valeur ajoutée, pour créer plus d'emplois. Le gouvernement doit pouvoir structurer cette transformation autour du partenariat public-privé. Parce que dans les politiques publiques, la transformation, c'est une activité industrielle. Et une activité industrielle, généralement, n'est pas bien assurée par les pouvoirs publics. Donc, c'est le privé qui a un rôle fondamental dans cette stratégie de la transformation de la production agricole de façon à créer plus de valeur ajoutée.
Cheban Koulibaly, vous faites partie des convaincus. Développer la transformation des matières premières et notamment des produits alimentaires permettra de limiter, de réduire l'immigration?
Oui, je pense que tant qu'on confine les paysans dans la seule sphère de la production, il n'y a pas possibilité qu'ils aient des revenus en hausse. Parce que plus tu produis des matières premières brutes, plus les prix ont tendance à baisser. Donc il y a une expérience qui a eu lieu au Mali dans les années 80 à l'office du Niger où on a aussi, à côté de la transformation par les grands privés, on a aussi initié la transformation par des organisations paysannes. Les petits paysans ont pu avoir des revenus en transformant leur paddy en riz décortiqué et en vendant sur le marché à un prix pratiquement double du prix du paddy.
Alors vous parliez du Mali justement, Oumar nous a contacté de Sikasso. Bonjour Oumar.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne de RFI. Nous vous écoutons avec l'ancien Premier ministre guinéen, cabinet Comara, avec Moussa Alassane Diallo de la Banque Nationale de Développement Agricole du Mali et Cheban Koulibaly, spécialiste des questions agricoles.
Ok, je travaille et je vis à Sikasso depuis 2 années maintenant et je travaille dans le domaine du développement communautaire. Et nous avons à Sikasso certaines difficultés liées à la production, à la conservation, à la transformation et qui a des conséquences sur même l'exode ici à Sikasso.
Donnez-nous un exemple concret de problème de conservation des récoltes.
À Sikasso ici, en juin 2014, et a eu l'inauguration du pôle de conditionnement et de transformation de la mangue et de la pomme des terres. Donc, c'est une capacité de 300 tonnes. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, il y a une quantité énorme de produits de la mangue ou de la pomme des terres qui n'arrivent pas à pouvoir être conservés parce que, justement, on n'a pas assez de place. Moi, je suis dans le secteur, comme je dis, développement communautaire à travers la microfinance. Donc, on finance ces différentes filières-là. Mais quand on va pour les visites terrain, on se rend compte qu'il y a un volume énorme de mangues qui pourrissent dans la brousse. Oui. Et c'est un mangue à gagner.
Et pourtant, la mangue malienne est succulente, on se régale à chaque fois. Mais c'est vrai qu'une partie de la production pourrit sur place. Cheban Koulibaly, comment expliquer un tel paradoxe?
Bon, il faut dire que... la transformation de ces fruits et légumes demande une maîtrise d'abord de l'approvisionnement. On a eu une expérience malienne ici avec l'usine de conserverie de Baguineda.
Enfin, là, vous me parlez de quoi, des années 60?
Oui, mais il faut tirer les leçons. Ce qui s'est passé, c'est que l'approvisionnement en quantité et qualité n'a pas toujours suivi. La deuxième chose, c'est les coûts de transformation, il faut les maîtriser. Et ça, c'est un challenge. Et le dernier point...
Ça veut dire quoi? Il faut maîtriser les coûts de production. Ça veut dire qu'une mangue produite au Mali aujourd'hui, s'il fallait la conserver sur place, la transformer sur place, serait au final plus chère qu'une mangue importée d'Asie?
Mais vous avez le prix de l'énergie.
Je vous ai posé une question, oui ou non?
Oui, le
oui,
prix de l'énergie.
Ben voilà, il faut dire les choses pour que tout le monde comprenne.
Le prix de l'énergie, déjà, coûte très cher. Et ça pèse énormément sur les coûts de transformation et ça pèse également au niveau de la concurrence.
Qui souhaite réagir à cette thématique justement, Moussa Alassane Diallo?
Oui, je pense très honnêtement que tant que les gens veulent conserver leur production individuellement, ils n'ont qu'une chance d'arriver. Mais si l'ensemble des producteurs au niveau de la localité se mettent ensemble pour créer cette interprofession, ça peut être vraiment un interlocuteur valable pour assurer le financement de toutes les structures en charge de la conservation.
Monsieur le Premier ministre, cabinet Comara.
Ce que l'auditeur de Sikasso vient de dire est hélas une réalité à travers tout l'Ouest africain. En Guinée, dans mon pays, c'est pareil. Mais je dois dire qu'au Mali, ils ont eu la chance. Il y a la société Monte Carlo Fruits qui, il y a 4 ans, après avoir tenté une expérience en Guinée, est venue s'installer donc à Sikasso, entre Sikasso et Bougouni, pour justement faire la transformation. Le Burkina a davantage réussi dans ce domaine de mangue, mais nous sommes en concurrence avec l'Asie. L'encadrement est fondamental dans le pays. On ne peut pas laisser les agriculteurs à la merci d'eux-mêmes sans leur donner les moyens, les conseiller, les éduquer, les rapprocher. Quand on parle de financement de l'agriculture, moi je parle d'abord fondamentalement à ce soutien.
Ouais. À quand la révolution agricole africaine? On en parle ce matin ici à Bamako à l'occasion du forum de Bamako qui se tient ces jours-ci. On parlait à l'instant de la transformation des produits. Un autre aspect à prendre en compte évidemment, le réchauffement climatique. Bonjour Eladj.
Bonjour Juan, bonjour à tous, bonjour à vos invités.
Merci de nous avoir contactés de N'Djamena au Tchad. Nous vous écoutons.
En effet, le Tchad, comme la plupart des pays africains, fait face aux effets néfastes du changement climatique. Ces effets, moi je les ai catégorisés en 3 niveaux. D'abord, l'avancée du désert, la mauvaise répartition de la pluviométrie et l'assèchement du lac Tchad, qui, comme vous le savez, nourrit plus de 30 millions de personnes issus des différents pays qui constituent les États du bassin du lac Tchad.
Oui, le Niger, le Cameroun, le Nigeria et votre pays, le Tchad. Voilà, c'est important quand même de les nommer. Et donc justement, parlons du lac Tchad. 30 millions de personnes en dépendent et ce lac qui se réduit d'année en année.
Il se réduit d'année en année et cette réduction du lac Tchad pousse les bras valides à opérer des exodes d'abord à l'intérieur du pays, ensuite dans les différents pays pour subvenir à leur besoin premier qui est alimentaire.
Ouais. Cheban Koulibaly, justement, cette notion du réchauffement climatique, il faut la prendre en compte désormais.
Absolument.
Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est peut-être le problème numéro un pour le continent africain, alors qu'on essaye d'impulser la révolution agricole.
Oui, alors cette révolution doit passer par un changement important des systèmes de production, qui ont été jusqu'ici des systèmes très dépensiers au niveau des ressources naturelles, c'est des systèmes extensifs, qui ont surtout misé sur l'augmentation des superficies. Aujourd'hui, le réchauffement climatique signe la fin de ce type de système. Mmh. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est des systèmes plus intensifs, qui misent sur l'augmentation des rendements, donc de la productivité. Et il faut assurer de façon continue cette augmentation de la productivité.
Oui, mais pour cela, le simple agriculteur seul dans son coin, il ne peut rien faire.
Non, il faut une politique qui transforme l'agriculture familiale déjà en entreprise, oui, n'est-ce pas, avec une logique de tenir compte de tous les facteurs de production et des coûts de ces facteurs et tout ça. Et donc, on en a parlé tout à l'heure, il faut l'accompagnement. Mm. Mais il y a l'espoir qu'en y mettant les jeunes très rapidement, on peut faire changer les choses assez rapidement.
Ouais, les jeunes qui commencent effectivement à retourner sur les terres de leurs ancêtres pour les cultiver, ce qui était impensable il y a quelques années. Hein, pour avoir organisé plusieurs fois des émissions dans plusieurs universités ouest-africaines ou d'Afrique centrale, quand on demandait aux étudiants s'ils souhaitaient poursuivre leurs études de sociologie, alors qu'on sait très bien qu'un pays certes a besoin de sociologues, mais pas de milliers de sociologues, ou retourner sur la terre de leurs ancêtres, eh bien personne ne souhaitait se lancer dans l'agriculture et on sent effectivement un changement de perception au fur et à mesure que les années passent. Nous retournons au standard à Paris. Paul, bonjour.
Bonjour Monsieur Gomez, bonjour RFI et à tous les invités.
Vous êtes à Anéo, c'est à mi-chemin entre Lomé et la frontière béninoise. Vous êtes vous-même agro-pasteur.
Oui, je suis agro-pasteur et précédemment j'étais dans expertise comptable, j'ai pris ma retraite, je suis devenu agro-pasteur.
D'accord, et vous êtes très amer, vous, aujourd'hui?
Je suis amer parce que, à 60 ans, le pays que j'ai laissé il y a 40 ans, je constate que les problèmes sont toujours les mêmes. L'immense majorité de la population togolaise dépend toujours de l'agriculture. L'agriculture emploie plus de 60% de la population active, pour une contribution au produit intérieur brut d'environ 40%. Mmh. Malgré tous ces chiffres-là, les crédits bancaires du Togo ne sont affectés à l'agriculture que moins d'1% du volume global des crédits bancaires.
C'est-à-dire que ni les banquiers ni les autorités ne vous soutiennent et ne prennent au sérieux ce secteur agricole.
C'est-à-dire qu'on nous soutient par des discours, on nous soutient par des mesurettes, mais les mesures réelles manquent. Et il faut savoir encore qu'il y a un peu plus d'un an, le gouvernement se plaisait à distribuer des roues et des coupes-coupes aux agriculteurs. Ce sont des outils qui datent de plus de 1000 ans. Ce qui semble...
Vous ne le voyez pas, Paul, mais en toute amitié, ça fait sourire, Monsieur le Premier ministre, cabinet Comara de la Guinée. Mais notre auditeur a raison, des coupes-coupes en 2017, 2018, 2019. Voilà, c'est un outil d'un autre temps. Comment passer de la parole aux actes? Il y a de très beaux discours, mais ensuite, comment concrètement on aide l'agriculteur? On leur offre des tracteurs ou que fait-on, Monsieur le Premier ministre?
Je ne suis pas togolais, mais je pourrais nuancer un peu ce que je connais du Togo par rapport à ce que dit cet auditeur. Le Togo est certainement l'un des pays qui a fait le plus de progrès.
Ah.
Et c'est un pays qui, dès 2006, a lancé vraiment une politique agricole assez hardie et qui a abouti à la création de la mise en place de ce qu'on appelle les offices de promotion agricole, et qui regroupe par filière les différents agriculteurs. Et je crois que notre auditeur aurait intérêt à se rapprocher de ces OPA qui ont pour but de fédérer les différents participants, les différents acteurs, de façon à défendre leurs besoins et les présenter et aux banques et aux décideurs.
Et justement, on a un banquier ce matin avec nous, Moussa Lassane Diallo. Des cas comme Paul, il y en a des milliers, des millions sur le continent africain. Paul a besoin d'un financement. Que fait-il ? S'il est au Mali, il frappe à la porte de la Banque Nationale de Développement Agricole du Mali. Vous étudiez son projet, vous le financez. Comment ça se passe ?
Bien sûr, vous savez que...
Bien sûr, ça n'a pas l'air évident.
Le financement du secteur de l'agriculture est prioritairement et fondamentalement une mission de service public. Parce que dans la plupart des pays en Afrique, notamment dans les pays du Sahel, le secteur de l'agriculture est soumis à des aléas, des aléas climatiques, sécheresse, inondation, feu de brousse. Donc, le risque agricole n'est pas toujours apprécié par le banquier traditionnel.
Ce n'est pas un investissement sûr.
Non, ce n'est pas un investissement sûr. C'est un investissement sûr lorsqu'on arrive à identifier l'ensemble des risques qui rentrent dans la production agricole et intégrer ces risques-là dans le schéma financier qui est le nôtre. Et c'est comme ça qu'on peut apprécier ces risques-là et les atténuer. Il n'y a pas une politique agricole, une politique de financement globale. Chaque exploitation, chaque entité constitue un cas auquel il faut réfléchir et apporter une réponse appropriée.
Oui. Alors, est-ce qu'on peut terminer avec une note optimiste ? Il y a quand même des pays qui réussissent leur révolution agricole sur le continent africain. S'il fallait en citer un ou deux, allez, qui se lance ? Cheban Koulibaly.
Oui. Bon, alors moi je connais pas très bien les expériences de différents pays, mais je pense qu'il faut définir une bonne politique agricole. C'est ça un des problèmes. Et deuxièmement, il faut que cette politique soit aussi acceptée, soit partagée, soit mise en œuvre par les producteurs.
Mais concrètement, est-ce qu'il y a un pays qui sort du lot ? Alors, qui sort du lot ? Moussa Lassane Diallo.
Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui font des progrès remarquables. Si on prend le cas du Rwanda, c'est un pays quand même où la politique agricole a pu s'inscrire dans une démarche structurée portée par les pouvoirs publics et pour laquelle on a pu identifier l'ensemble des contraintes et les défis. Et chaque défi a pu être identifié et pour lequel on a pu apporter des réponses. Aujourd'hui, je pense que c'est un exemple de réussite qu'on peut citer.
Monsieur le Premier ministre, cabinet Camara,
Citer aussi le Malawi et tout près de nous le Sénégal qui a réussi en 3 ans à effectuer une révolution dans la vallée du Sénégal, du fleuve Sénégal, à la culture du riz. Je dirais que l'année prochaine, le Sénégal sera autosuffisant en riz. Et je crois que c'est là une prouesse qu'il faut saluer.
Et une question qui nous arrive sur Facebook, Patrick Aboukavou. Je m'adresse à vous, Cheban Koulibaly. Patrick nous dit, les OGM, les organismes génétiquement modifiés, sont-ils une solution au problème d'insécurité alimentaire en Afrique ?
Ah, c'est une vaste question. C'est une vaste question. Je pense que, moi je suis pour le principe qu'il n'y a pas de manichéisme en matière de développement. Moi je ne rejette pas totalement les OGM. Mais je suis pour une analyse approfondie de chaque cas avant de faire recours à ces expériences.
Voilà,
parce que la recherche, quand même, a jusqu'ici beaucoup travaillé, contribué à l'évolution de l'agriculture.
Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Demain, nous serons toujours à Bamako. Nous parlerons de l'immigration intra-africaine. Contrairement aux idées reçues, 80% des migrations africaines s'opèrent à l'intérieur du continent et non de l'Afrique vers l'Europe. L'occasion de vous entendre. Dites-nous si ces flux migratoires sont plutôt bien vécu, bien perçu dans les pays d'accueil. Est-ce qu'il suscite peut-être, comme en Europe, de la méfiance ? On vous donnera évidemment la parole. Avant de vous quitter, sachez que demain, à partir de 9h, nous serons à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako pour l'enregistrement de plusieurs émissions en public. Notamment, nous dresserons un état des lieux de la situation au Mali et vous pourrez également assister aux enregistrements du débat africain d'Alain Foka et à l'émission « Alors on dit quoi ?» de Diaran Ndiaye. Donc venez nombreux à partir de 9h à la Faculté des sciences et techniques et de gestion de Bamako. Merci à toute l'équipe à Bamako. Jessica Taïeb, Boris Vichit, Arès Siradag, à Paris, Didier Chérouz, Nicolas Benita, Quentin Ferral, Léa Deschâteaux et Fouque Foller pour les réseaux sociaux. À suivre, comme tous les matins, sur RFI, juste après le journal, Caroline Paré, Priorité Santé. Bonne journée.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par la carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA.